Physiologie du goût, première partie, méditation 8. De la soif. 49. La soif est le sentiment intérieur du besoin de boire. Une chaleur d'environ 32 degrés de réaumur, vaporisant sans cesse les divers fluides dont la circulation entretient la vie, la déperdition qui en est la suite aurait bientôt rendu ces fluides inaptes à remplir leur destination s'ils n'étaient souvent renouvelés et rafraîchis. C'est ce besoin qui fait sentir la soif. Nous croyons que le siège de la soif réside dans tout le système digesteur. Quand on a soif, et en notre qualité de chasseur, nous y avons souvent été exposés, on sent distinctement que toutes les parties inhalantes de la bouche, du gosier et de l'estomac sont entreprises et nérétisées. Et si quelquefois on apaise la soif par l'application des liquides, ailleurs qu'à ses organes, comme par exemple le bain, c'est qu'aussitôt qu'ils sont introduits dans la circulation, ils sont rapidement portés vers le siège du mal et s'y appliquent comme remède. Diverses espèces de soif. En envisageant ce besoin dans toute son étendue, on peut compter trois espèces de soif. La soif latente, la soif factice et la soif adurante. La soif latente ou habituelle est cet équilibre insensible qui s'établit entre la vaporisation transpiratoire et la nécessité d'y fournir. C'est elle qui, sans que nous éprouvions quelque douleur, nous invite à boire pendant le repas et fait que nous pouvons boire presque à tous les moments de la journée. Cette soif nous accompagne partout et fait, en quelque façon, partie de notre existence. La soif factice, qui est spéciale à l'espèce humaine, provient de cet instinct inné qui nous porte à chercher dans les boissons une force que la nature n'y a pas mise et qui n'y survient que par la fermentation. Elle constitue une jouissance artificielle plutôt qu'un besoin naturel. Cette soif est véritablement inextinguible parce que les boissons qu'on prend pour l'apaiser ont l'effet immanquable de la faire renaître. Cette soif, qui finit par devenir habituelle, constitue les ivrognes de tous les pays. Et il arrive presque toujours que l'impotation ne cesse que quand la liqueur manque ou qu'elle a vaincu le buveur et l'a mis hors de combat. Quand au contraire, on apaise la soif que par l'eau pure, qui paraît en être l'antidote naturel, on ne boit jamais une gorgée au-delà du besoin. La soif adurante est celle qui survient par l'augmentation du besoin et par l'impossibilité de satisfaire la soif latente. On l'appelle adurante parce qu'elle est accompagnée de l'ardeur de la langue, de la sécheresse du palais et d'une chaleur dévorante dans tout le corps. Le sentiment de la soif est tellement vif que le mot est, presque dans toutes les langues, le synonyme d'une appétence excessive et d'un désir impérieux. Ainsi, on a soif d'or, de richesse, de pouvoir, de vengeance, etc. Expression qui n'eût pas passé s'il ne suffisait pas d'avoir eu soif une fois dans sa vie pour en sentir la justesse. L'appétit est accompagné d'une sensation agréable, tant qu'il ne va pas jusqu'à la faim. La soif n'a point de crépuscule, et dès qu'elle se fait sentir, il y a malaise, anxiété, et cette anxiété est affreuse quand on n'a pas l'espoir de se désaltérer. Par une juste compensation, l'action de boire peut, suivant les circonstances, nous procurer des jouissances extrêmement vives. Et quand on apaise une soif à haut degré, ou qu'à une soif modérée on oppose une boisson délicieuse, tout l'appareil papillaire est en titillation depuis la pointe de la langue jusque dans les profondeurs de l'estomac. On meurt aussi beaucoup plus vite de soif que de faim. On a des exemples d'hommes qui, ayant de l'eau, se sont soutenus pendant plus de 8 jours sans manger, tandis que ceux qui sont absolument privés de boisson ne passent jamais le 5e jour. La raison de cette différence se tire de ce que celui-ci meurt seulement d'épuisement et de faiblesse, tandis que le premier est saisi d'une fièvre qui le brûle et va toujours en s'exaspérant. On ne résiste pas toujours si longtemps à la soif, et en 1787, on vit mourir un de ces 100 Suisses de la garde de Louis XVI pour être resté seulement 24 heures sans boire. Il était au cabaret avec quelques-uns de ses camarades. Là, comme il présentait son verre, un d'entre eux lui reprocha de boire plus souvent que les autres et de ne pouvoir s'en passer un moment. C'est sur ce propos qu'il gagea de demeurer 24 heures sans boire, pari qui fut accepté et qui était de 10 bouteilles de vin à consommer. Dès ce moment, le soldat cessa de boire, quoiqu'il restât encore plus de 2 heures à voir faire les autres avant que de se retirer. La nuit se passa bien, comme on peut croire, mais dès la pointe du jour, il trouva très dur de ne pouvoir prendre son petit verre d'eau-de-vie, ainsi qu'il n'y manquait jamais. Toute la matinée, il fut inquiet et troublé. Il allait et venait, se levait, s'asseyait sans raison, et avait l'air de ne savoir que faire. À 1 heure, il se coucha, croyant être plus tranquille. Il souffrait, il était vraiment malade. Mais vainement, ceux qui l'entouraient l'invitaient-ils à boire. Il prétendait qu'il irait bien jusqu'au soir. Il voulait gagner la gageure, à quoi se mêlait sans doute un peu d'orgueil militaire qui l'empêchait de céder à la douleur. Il se soutint ainsi jusqu'à 7 heures. Mais à 7h30, il se trouva mal, tourna à la mort et expira sans pouvoir goûter à un verre de vin qu'on lui présentait. Je fus instruit de tous ces détails dès le soir même par le sieur Schneider, honorable fifre de la compagnie des 100 Suisses, chez lequel je logeais à Versailles. Cause de la soif, 50. Diverses circonstances unies ou séparées peuvent contribuer à augmenter la soif. Nous allons en indiquer quelques-unes qui n'ont pas été sans influence sur nos usages. La chaleur augmente la soif. Et de là, le penchant qu'ont toujours eu les hommes à fixer leurs habitations sur le bord des fleuves. Les travaux corporels augmentent la soif. Aussi, les propriétaires, qui emploient des ouvriers, ne manquent jamais de les fortifier par des boissons. Et de là, le proverbe que le vin qu'on leur donne est toujours le mieux vendu. La danse augmente la soif, et de là, le recueil des boissons corroborantes ou rafraîchissantes qui ont toujours accompagné les réunions dansantes. La déclamation augmente la soif, de là, le verre d'eau que tous les lecteurs s'étudient à boire avec grâce et qui se verra bientôt sur les bords de la chaire à côté du mouchoir blanc. Le chanoine de l'Estrat, prédicateur fort agréable, ne manquait jamais d'avaler une noix confite dans l'intervalle de temps qu'il laissait à ses auditeurs entre chaque point de son discours pour tousser, cracher et moucher. Les jouissances génésiques augmentent la soif. De là, ces descriptions poétiques de Chypre, Amatonte, Gnide et autres lieux habités par Vénus, où on ne manque jamais de trouver des ombrages frais et des ruisseaux qui serpentent, coulent et murmurent. Les chants augmentent la soif, et de là la réputation universelle qu'ont eue les musiciens d'être infatigable buveur. Musicien moi-même, je m'élève contre ce préjugé qui n'a plus maintenant ni sel ni vérité. Les artistes qui circulent dans nos salons boivent avec autant de discrétion que de sagacité. Mais ce qu'ils ont perdu d'un côté, ils le regagnent de l'autre. Et s'ils ne sont plus ivrognes, ils sont gourmands jusqu'au troisième ciel, tellement qu'on assure qu'au cercle d'harmonie transcendante, la célébration de la fête de Sainte-Cécile a duré quelquefois plus de 24 heures. Exemple 51. L'exposition à un courant d'air très rapide est une cause très active de l'augmentation de la soif, et je pense que l'observation suivante sera lue avec plaisir, surtout par les chasseurs. On sait que l'écaille se plaise beaucoup dans les hautes montagnes où la réussite de leur ponte est plus assurée, parce que la récolte s'y fait beaucoup plus tard. Lorsqu'on moissonne le seigle, elle passe dans les orges et les avoines, et quand on vient à faucher ces dernières, elle se retire dans les parties où la maturité est moins avancée. C'est alors le moment de les chasser, parce qu'on trouve, dans un petit nombre d'arpents de terre, l'écaille qui, un mois auparavant, était disséminée dans toute une commune, et que, la saison étant sur sa fin, elles sont grosses et grasses à satisfaction. C'est dans ce but que je me trouvais un jour avec quelques amis sur une montagne de l'arrondissement de Nantua, dans le canton connu sous le nom de Plan d'automne. Et nous étions sur le point de commencer la chasse par un des plus beaux jours du mois de septembre et sous l'influence d'un soleil brillant, inconnu au Cockney. C'est le nom par lequel on désigne les habitants de Londres qui n'en sont pas sortis. Il équivaut à celui de Badaud. Mais pendant que nous déjeunions, il s'éleva un vent du nord extrêmement violent et bien contraire à nos plaisirs, ce qui ne nous empêcha pas de nous mettre en campagne. À peine avions-nous chassé un quart d'heure que le plus douillé de la troupe commença à dire qu'il avait soif. Sur quoi on l'aurait sans doute plaisanté si chacun de nous n'avait pas aussi éprouvé le même besoin. Nous bûmes tous, car l'âne cantinier nous suivait. Mais le soulagement ne fut pas long. La soif ne tarda pas à reparaître avec une telle intensité que quelques-uns se croyaient malades, d'autres prêts à le devenir. Et on parlait de s'en retourner, ce qui nous aurait fait un voyage de 10 lieues en pure perte. J'avais eu le temps de recueillir mes idées et j'avais découvert la raison de cette soif extraordinaire. Je rassemblai donc les camarades et je leur dis que nous étions sous l'influence de 4 causes qui se réunissaient pour nous altérer. La diminution notable de la colonne qui pesait sur notre corps, qui devait rendre la circulation plus rapide, l'action du soleil qui nous échauffait directement, la marche qui activait la transpiration, et plus que tout cela, l'action du vent qui, nous perçant à jour, enlevait le produit de cette transpiration, soutirait le fluide et empêchait toute moiteur de la peau. J'ajoutais que, sur le tout, il n'y avait aucun danger, que l'ennemi étant connu, il fallait le combattre, et il demeura arrêté qu'on boirait à chaque demi-heure. La précaution ne fut cependant qu'insuffisante. Cette soif était invincible. Ni le vin, ni l'eau-de-vie, ni le vin mêlé d'eau, ni l'eau mêlée de vin, n'y purent rien. Nous avions soif même en buvant, et nous fûmes mal à notre aise toute la journée. Cette journée finit cependant comme une autre. Le propriétaire du domaine de la tour nous donna l'hospitalité en joignant nos provisions aux siennes. Nous dînâmes à merveille, et bientôt nous allâmes nous enterrer dans le foin et y jouir d'un sommeil délicieux. Le lendemain, ma théorie reçut la sanction de l'expérience. Le vent tomba tout à fait pendant la nuit. Et quoique le soleil fût aussi beau et même plus chaud que la veille, nous chassâmes encore une partie de la journée sans éprouver une soif incommode. Mais le plus grand mal était fait. Nos cantines, quoique remplies avec une sage prévoyance, n'avaient pu résister aux charges réitérées que nous avions faites sur elles. Ce n'était plus que des corps sans âme, et nous tombâmes dans les futailles des cabaretiers. Il fallut bien s'y résoudre, mais ce ne fut pas sans murmurer, et j'adressai au vent dessiccateur une allocution pleine d'invectives quand je vis qu'un mets digne de la table des rois, un plat d'épinards à la graisse de caille, allait être arrosé d'un vin à peine aussi bon que celui de Suresnes. Suresnes, village fort agréable à 2 lieues de Paris, il est renommé par ses mauvais vins. On dit proverbialement que, pour boire un verre de vin de Suresnes, il faut être 3, savoir le buveur et 2 acolytes pour le soutenir et empêcher que le cœur ne lui manque. On en dit autant du vin de Périeux, ce qui n'empêche pas qu'on ne le boive.